suis super content avec Béatrice d'être parmi vous ce matin. Pour deux raisons, et il y en a une, c'est parce que de plus on vient, plus on connaît de visages et d'amis. Et après ceux de Darnay, aussi ceux de chaque mois maintenant. Et on est vraiment réjouis d'être parmi vous ce matin. On vous adresse les salutations de l'église de Montbéliard. Et puis aussi celle du comité de mission, comme l'a dit Christian tout à l'heure. D'être avec vous aussi, ça nous invite à prier pour que la communion élargie qui est réunie ce matin, que le Seigneur la bénisse, la développe, et que le Seigneur vous bénisse aussi tous, là où vous êtes, dans vos activités de semaine, dans vos travaux, dans vos combats. Et j'espère que le moment qu'on passe aussi ensemble devant la parole de Dieu peut nous encourager à continuer à marcher, puisqu'aujourd'hui il faut se mettre en marche. Et lorsque j'interviens, je ne peux pas m'empêcher de parler de la parole de Dieu en lien avec la mission. Et peut-être l'angle avec lequel j'aimerais en parler ce matin va vous surprendre. Et puis on a un défi pour commencer quand on prononce le mot mission. C'est de faire une remise à zéro de tous les clichés qu'on a quand on entend ce mot-là. Et d'essayer de dépasser nos idées préconçues. Alors on fait une remise à zéro. Mission, ça ne veut rien dire pour vous encore ce matin. À l'automne 2016, je ne sais pas si vous avez suivi, on a fait deux journées de sensibilisation à la mission avec la MMF et le comité de mission. Et puis on a été encore surpris de voir combien ce mot mission est connoté de bien et avec des connotations bien ancrées. On pense que c'est partir à l'étranger. Ceci, je suis super content d'être là aussi parce que tu es là ce matin. On pense que la mission, c'est pour des personnes qui sont appelées de façon particulière, un service particulier. Puis on pense peut-être qu'il faut être spécialiste en évangélisation, ou en développement, ou en service social. Et ceux qui étaient venus à ces journées s'attendaient à ce qu'on parle de ça. Et puis ceux qui sont pas venus parce qu'ils pensaient qu'on allait parler de ça. Et j'aimerais ce matin qu'on se laisse interpeller par la vie terrestre de Jésus. Par son message, par son comportement, par ses actes, qui vont questionner nos clichés sur la mission. D'ailleurs, Jésus n'utilise jamais ce mot. Il utilise autre chose. En grec, c'est basileia. Dans notre vocabulaire à nous, c'est royaume de Dieu ou règne de Dieu. Et puis parmi les clichés qu'on a, il y a celui que la mission, ça commence après la mort de Jésus. Là, il est mort, on a quelque chose à dire, et on va l'annoncer. Des missiologues comme Martin Hegel, cité par David Bosch dans son livre « Dynamique de la mission chrétienne », disent qu'il faut souligner que sans l'activité du Jésus terrestre, il devient absurde de parler d'un intérêt pour Jésus qui démarre juste à la croix. Une église fondée à Pâques et qui, pour toutes sortes de raisons, ne s'intéresse plus au Jésus terrestre, se coupe de son origine. Je cite, hein, « On peut seulement parler de Pâques si on sait que c'est l'homme Jésus de Nazareth qui est ressuscité. Un être qui, en raison de son humanité, de son activité, de sa souffrance, n'est pas simplement une feuille blanche interchangeable. » Et le texte que je voudrais parler avec vous, partager avec vous ce matin, c'est un texte que je n'ai pas compris pendant longtemps. Il me paraissait trop déconnecté de la vie réelle. Ses affirmations me paraissaient trop théoriques, trop irréalistes, trop paradoxales. Et puis il y a 3 ans, c'est la lecture d'un commentaire de Dave Andrews qui m'a réintroduit une façon de voir ce texte qui m'a dit « Tiens, ça peut me concerner ». J'ai commencé de le méditer jusqu'à réaliser que ce texte ne peut pas juste être compris avec notre intelligence, mais qui peut être compris que lorsqu'on l'a confronté à une mise en pratique. Et dans la mise en pratique de chacun d'entre nous, dans nos environnements, à chacun, qui ne sont pas parfaits, si ? Non ? Alors on va avoir des choses à se dire. Dans des relations qui sont parfois dures, dans des situations qui sont parfois dures, Devon Drews donne un enjeu à ce texte. C'est laisser la façon d'agir habituelle, qui est traiter les autres comme ils nous traitent. Si on attaquait, on attaque en retour. Et puis ça finit jamais. Mais il nous invite à adopter un plan B, et vous l'avez vu tout à l'heure, c'est la B attitude. Et bien sûr, le texte que on va lire maintenant, c'est le début de Matthieu 5, les béatitudes. C'est l'introduction du sermon sur la montagne. Et Matthieu 5, c'est après Matthieu 4. Si vous êtes lecteur assidu des dossiers de Christol, relisez celui, le numéro 1 de 2015, écrit par John Miller, qui nous dit que ce chapitre 4, il s'y passe trois choses fondamentales pour comprendre aussi la suite. Vous vous souvenez de la tentation de Jésus dans le désert? Et là, John Miller nous dit qu'en fait, Jésus refuse trois façons d'être le Messie qui sont proposées par le tentateur. Il refuse d'être le Messie économique qui va changer la pierre en pain. Il refuse, lorsqu'il est sur le temple, d'être le faiseur de miracles qui est censé apporter le réveil de la foi. Et puis lorsqu'il est amené au-dessus de la montagne, il refuse d'être le Messie politique, celui à qui tous les royaumes de la terre sont donnés. Et c'était trois façons populaires d'attendre le Messie dans le peuple d'Israël. Et c'est intéressant de faire ce lien entre le récit de la tentation de Jésus et puis le contre-pied des attentes du peuple qui sont prises. Et puis juste dans la fin du chapitre 4, Jésus commence à proclamer, verset 17, « Changez radicalement car le règne des cieux s'est approché. » Et Jésus va commencer une communauté de disciples. Il va démarrer un ministère de guérison, de libération. Je ne prononce pas le mot mission à chaque fois, mais quand on parle de guérison, de libération, on est dans le sujet. Celui de la réparation de ce qui est parti de travers dans nos vies et dans nos sociétés. C'est ça qu'il a dit. Le règne de Dieu qui s'approche, c'est la réparation de ce qui est parti de travers. Et ce règne de Dieu, la communauté de disciples que Jésus va commencer à construire, c'est au cœur de ce que Dieu veut faire pour atteindre le monde, de la mission. C'est au cœur de la façon dont Jésus s'y prend pour changer le monde. Et donc on arrive sur ce texte de Matthieu 5, les versets 1 à 11. Voyant les foules, Jésus monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples vinrent à lui. Puis il prit la parole et se mit à les instruire. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui sont compatissants, car ils obtiendront compassion. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, qu'on vous persécute, et qu'on répand faussement sur vous toutes sortes de méchancetés à cause de moi. C'est paradoxal, hein? Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé, c'est quoi l'homme ou la femme dont Dieu a rêvé? Comment il rêve Dieu que cet homme ou cette femme se comporte? John Miller nous dit toujours dans ses chapitres de Matthieu, Jésus partage avec nous sa propre vision passionnée de l'être humain, tel qu'il pourrait être s'il réalisait sa vocation et le destin qu'il trouve au plus profond de son être. Il décrit les citoyens du royaume qu'il est venu établir. Beaucoup d'entre nous espèrent un monde meilleur et y travaillent de manière vague, sans d'abord s'arrêter à eux-mêmes. Et pourtant, ce qui est plus profondément mauvais dans notre monde n'est souvent rien d'autre qu'un reflet de ce qui est plus profondément mauvais en chacun de nous. Et Jésus, ici, avec un passage paradoxal comme celui-là, va mettre un défi devant nous. Incarner nous-mêmes le changement que nous voudrions voir se produire. Un portrait des citoyens du royaume. Alors pourquoi ce texte m'est resté obscur pendant des années? Je crois que l'interprétation de la première béatitude y est pour beaucoup et conditionne l'orientation du texte. Certains des commentaires que j'utilisais, je ne les recommande pas tous, et même certaines traductions de ce passage limitent la portée de ce passage à la sphère intérieure, personnelle, spirituelle. Spirituellement pauvre, humilité. On traduit souvent ce passage comme ça, repentance. Et d'ailleurs, plusieurs textes, si on prend un petit peu les versions de la John Miller, je vous laisse déjà donner, donc si on prend plusieurs textes de la Bible sur la façon dont cette première béatitude a été traduite, on trouve une traduction neutre qu'on trouve dans la Nouvelle Bible Second. Osterwald, c'est, oh là là, je ne sais plus toutes, je ne sais plus tous les sigles. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Louis II, LSG, bien sûr. Et puis, il y a des traductions qui appuient clairement un sens. J'appelle le sens 1. Le sens 1, où on dit que c'est spirituellement pauvre. Heureux ceux qui savent pauvres en eux-mêmes, car le royaume des cieux est à eux. Ça, c'est la Bible en français courant. La parole de vie dit « Heureux ceux qui sont conscients de leur pauvreté spirituelle, car c'est à eux que le royaume des cieux est réservé. » La Semeur dit « Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. » Et puis, il n'y a pas vraiment un deuxième sens, mais on laisse une porte ouverte sur autre chose. Avec la Bible de Jérusalem, heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le royaume des cieux est à eux. Parole de vie aussi, heureux, ils sont heureux ceux qui ont un cœur de pauvre, parce que le royaume des cieux est à eux. Donc là, il s'agit du cœur de pauvre, et la Tob, heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Bon, je ne vous ai pas aidé jusqu'à maintenant. Hein. Peut-être pour... Je vais donner le commentaire de Dave Andrews sur ce passage, mais quand on cherche dans l'interlinéaire grec-français, c'est la traduction littérale, mot à mot, du grec en français. Ce passage dit « Heureux les pauvres par l'esprit ». C'est ce qui est traduit dans l'interlinéaire grec. Alors qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Et pour avancer avec ce verset, j'aimerais qu'on se pose trois questions. La première, lorsque Jésus parle du royaume des cieux, de quoi parle-t-il? Le royaume des cieux, c'est le règne de Dieu. Comme j'ai dit, c'est au cœur des enseignements de Jésus, c'est sa raison d'être. On a lu tout à l'heure Matthieu 4, 17, on trouve la même chose dans Marc 1, 15. Le temps est accompli, le règne de Dieu s'est approché. Changez radicalement à croire à la bonne nouvelle, il y a quelque chose qui vient. C'est frappant de relire les évangiles en réalisant que Jésus ne parle pas du règne de Dieu comme d'une réalité future dans le ciel. Il ne parle pas de ça comme uniquement ça. Mais comme un règne qui commence ici et maintenant. D'ailleurs, dans la prière du Notre Père, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Et pourtant, ce règne, il n'est pas tout à fait là. Le nouveau commentaire biblique dit ceci, est-ce que je l'ai écrit ? Ça peut vous aider à retenir ce que je dis. Le règne de Dieu, c'est le règne du Seigneur dans le cœur des hommes et dans la société. Ici et maintenant, il peut commencer à être transformation, restauration, libération, guérison, à travers des hommes et des femmes qui ont accepté de changer. Une façon de décrire ce que c'est que le règne de Dieu. Une autre façon de le dire, c'est David Bosch qui dit ça, c'est l'attaque tous azimuts contre le mal, sous toutes ses formes. Jésus, par son action, pendant 3 ans, va vaincre le mal sous toutes ses formes. La souffrance, l'immoralité individuelle, la maladie, l'autosatisfaction, sans amour de ceux qui prétendent connaître Dieu, le maintien des inégalités, des privilèges de classe, les relations brisées, la possession démoniaque, la maladie, la mort. Jésus affirme par son action que si la détresse humaine prend des formes diverses, le pouvoir de Dieu en fait tout autant. Le règne de Dieu, c'est cette lutte et cette victoire tous azimuts contre le mal. Encore une citation pour enfoncer le clou. C'est des citations qui m'ont particulièrement parlé. Joel Edwards, qui est le directeur international du Défi Miché, dit ceci, on ne peut pas comprendre la mission de Dieu si on ne comprend pas que Dieu a une tolérance zéro pour l'injustice. La tolérance zéro de Dieu pour la souffrance commence par la préoccupation passionnée de chacun qui se tient en dehors de la connaissance de Dieu. Tout ce que Dieu dit et fait est conçu pour répondre à la captivité des hommes, dans nos esprits, dans notre humanité, dans notre environnement, dans nos maisons, dans nos politiques, dans tout ce que cela signifie d'être humain et créé à l'image de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est quelque chose qui s'adresse à toute notre humanité et à tout ce qui l'empêche d'exprimer le potentiel que Dieu voulait qu'il exprime. Et toutes les activités missionnaires, tout ce qu'on peut engager comme action d'entraide, de service de l'autre, d'accompagnement spirituel, contribue à ce développement du règne de Dieu. Ce développement, parce que ce règne, il n'est pas pleinement établi, on le sait, on le voit, il s'est approché. Et il y a une tension entre ce qui est déjà là, ce qui n'est pas encore là, et cette tension, c'est la mission qui nous invite à la résoudre, à avancer. Deuxième question pour le verset de « Heureux les pauvres en esprit ». Peut-être, ça va vite, hein, mais est-ce que cette perspective du royaume de Dieu, vous êtes avec moi dans voir cet axe large que Jésus a en tête. Quand il parle des pauvres, heureux les pauvres en esprit, de quels pauvres parle-t-il ? Il y a un passage parallèle dans Luc 6, 20 qui est sans ambiguïté, où il s'agit aussi des béatitudes. Heureux êtes-vous, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. C'est les vrais pauvres. Dans les deux passages, le mot grec, c'est ptochos. Ça veut dire la pauvreté absolue. C'est pas le mot grec penes qui est une pauvreté relative. Ici, Jésus emploie le mot dans les deux évangiles pour parler des vraiment pauvres, des opprimés. La pauvreté économique, la pauvreté relationnelle, la pauvreté affective, de l'oppression politique, de l'oppression sociale. Et donc la question que je pose, c'est pourquoi dans Matthieu, il ne s'agirait pas des vrais pauvres ? C'est vrai qu'il y a cet ajout en esprit qui nous a amené à voir les différentes sortes de traductions qu'on a vues. Et donc, le grec qui nous dit c'est par l'esprit, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire ? Dave Andrews, il dit ça. Il dit « Heureux ceux qui s'identifient aux pauvres. Heureux ceux qui se sentent solidaires des pauvres. » Et il nous a introduit une idée qu'il ne s'agirait pas forcément d'une pauvreté intérieure. Je ne veux pas évacuer l'histoire de la pauvreté intérieure, parce que je pense que l'humilité et tout ce qu'on peut décliner derrière est une façon juste de voir ce texte aussi. Mais pourquoi pas considérer que heureux les pauvres par l'esprit, ça veut dire heureux ceux qui par l'esprit se sentent solidaires des pauvres. Et Jésus s'est identifié aux pauvres. Il avait fait de cela une priorité. Jésus a introduit une société avec des valeurs renversées, en particulier dans ce sermon sur la montagne, dont le passage est l'introduction. Avant sa naissance, dans le champ de Marie, sa mère, qui célébrait la venue future de Jésus, dans ce chant, il y a ces paroles: « Il a fait descendre les puissants de leur trône, élever les humbles, rassasier de bien les affamés, renvoyer les riches les mains vides. » Le ministère de Jésus avait quelque chose à voir avec les pauvres. Et lui-même, lorsqu'il a annoncé son discours programme, dans Luc chapitre 4, les versets 18 à 19, quand Jésus se lève dans la synagogue, on lui tend un passage du rouleau d'Ésaïe, vous vous souvenez? Ce passage où il est dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer aux pauvres la bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année d'accueil de la part du Seigneur. » Alors, je vous ai mis le texte là avec des couleurs, parce que Luc, il lit Ésaïe, hein, Jésus. Donc on lui tend Ésaïe, et puis il lit Ésaïe. Et il a commencé vraisemblablement au chapitre 61. C'est de ce chapitre qu'il s'agit. Et les paroles en vers viennent directement du chapitre 61. Puis au milieu, il y a une phrase en orange qui vient d'Ésaïe 58, verset 6. Qui va dans la même idée, mais qui... Luc, ici, il rapporte quelque chose en voulant faire passer un message. C'est que le ministère de Jésus, ça s'occupait des pauvres. Et au passage, il a fait un truc scandaleux. Jésus lui-même, probablement, il s'est arrêté au milieu d'un verset. Il a arrêté la lecture d'Ésaïe 61 au milieu du verset 2. Et il n'a pas lu « Et pour notre Dieu, un jour de vengeance ». Les Juifs attendaient un Messie qui viendrait les... libérer et puis les venger de l'humiliation qu'ils étaient en train de subir. Et Jésus, il a un autre programme. Et il le signifie en prenant le contre-pied de choses bien établies, bien connues aussi chez les Juifs, en lisant un verset, en s'arrêtant au milieu du verset 2 d'Ésaïe 61. Voilà, ça c'était pour dire que Jésus avait les pauvres au cœur de son programme. Il a vécu comme un pauvre. Il est né dans une mangeoire. Il n'avait pas d'endroit où reposer sa tête. Et quand il avait besoin d'une pièce, pour montrer quelque chose, il devait en demander une à quelqu'un. Alors pourquoi pas? Heureux ceux qui se sentent solidaires des pauvres. Heureux ceux qui voient la société par un autre bout de la lorgnette que celle des valeurs dominantes. Heureux ceux qui s'impliquent dans l'entraide du prochain, que ce soit les migrants, que ce soit dans les associations, heureux ceux qui visitent un ami à l'hôpital. Tous ceux qui s'impliquent dans de telles actions pourraient témoigner d'une forme de plénitude, malgré la difficulté qui remplit, celle d'être à notre place, celle d'être au cœur de l'amour de Dieu, au cœur du projet de Dieu. Alors on peut dire heureux ceux qui se sentent solidaires des pauvres. On peut se poser la question, nous, est-ce que nous nous sentons solidaires des pauvres? On va revenir sur sur le texte. Je ne sais pas si j'arrive à retrouver tous mes petits, mais c'est pas grave. C'était pour la première béatitude. On va aller plus vite sur les deuxièmes, rassurez-vous. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Si nous sommes solidaires des pauvres, des désespérés, nous allons être au contact de situations difficiles, de deuil, de désespoir. Il s'agit ici d'empathie. Jésus était solidaire des besoins du peuple et il a pleuré. Je cite un autre passage, Matthieu, verset 9, verset 35 à 38. Donc il va falloir quand même que j'avance, sinon vous allez avoir de la peine à le tourner dans vos Bibles. Le voilà. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, il enseignait dans leurs synagogues, proclamait la bonne nouvelle du règne et guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, il fut ému, car elles étaient lassées et abattues comme des moutons qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Jésus, solidaire des pauvres, il voit ici les besoins de la foule. Il voit les prisons intérieures qui doivent être libérés. Il voit les fonctionnements dans les relations qui bloquent l'épanouissement. Et puis il voit la quantité d'ouvriers nécessaires pour travailler à débloquer toutes ces situations quotidiennes. Quand on lit ce verset, on pense prier le maître d'envoyer des ouvriers dans la moisson, on pense envoyer égale loin. Ici, la mission, elle n'est pas lointaine, elle n'est pas vague. C'est une mission de proximité. Jésus, il voit la proximité des besoins. Et il se dit, il faut des personnes pour aller aider à débloquer ça. Heureux ceux qui pleurent. Car ils seront consolés. On avance dans ce portrait des béatitudes, de l'homme et la femme dont Dieu rêve peut-être. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Hériter la terre en étant doux, ça c'est un autre paradoxe. Jésus nous dit ici que la douceur, le contrôle de soi, c'est la façon d'obtenir quelque chose de durable. Et ça fait partie des passages où il faut peut-être avoir essayé d'autres manières que celle-là pour comprendre qu'il a raison de dire ça. Jésus s'oppose aux autres manières d'obtenir des résultats. Imposer en montrant de la supériorité, prendre par la force. C'est des méthodes qui engendrent du ressentiment, des arrière-pensées, qui engendrent un sentiment d'injustice, un sentiment de revanche. Et est-ce qu'un territoire remporté par la force l'est de façon durable? Les cicatrices laissées vont faire naître une opposition qui est durable. Est-ce que le pouvoir où les progrès acquis en insultant ou en combattant ses adversaires est acquis de façon durable? Est-ce que le pouvoir ou les progrès acquis en montant une partie de la société contre une autre partie est acquis de façon durable? On ne fait que créer les conditions d'une lutte et d'une défaite future. On ne fait qu'agiter un balancier qui finira par revenir dans l'autre sens. Et ce que Jésus ici nous dit, c'est que ce qui est obtenu au détriment de quelqu'un, ce n'est pas durable. Lorsqu'on parlait avec nos amis burkinabés qui nous ont visités au mois d'avril, ils habitent à 50 km de la frontière du Mali, où il y a les djihadistes du Nord Mali qui viennent faire des incursions. Et donc ils sont bien au courant qu'on a utilisé des moyens militaires pour lutter contre les djihadistes. Mais ils nous disent, ils ont employé cette expression, mais on est en train d'éteindre le feu avec de l'essence. C'est pour dire que la force qui est peut-être nécessaire n'est pas quelque chose qui procurera la paix de façon durable. Je cite Jacques Cheminade, il n'a pas été élu. Hein, et... Mais pendant les débats télévisés, j'étais impressionné par cet homme-là qui disait « Mais si on veut lutter contre le terrorisme, il ne faut pas seulement envoyer les armes, mais il faut aussi qu'on s'occupe de développement, de régler les situations de pauvreté qui engendrent les frustrations qui font qu'on prend les armes, etc. » Jésus nous dit la même chose. « Heureux les doux, ils hériteront la terre. » Sans aller jusque dans des choses géopolitiques, je peux vous dire que dans mon travail, quand je fais des tentatives d'emmener mon équipe dans des améliorations, imposer les changements, des méthodes, éventuellement laissant transparaître par la façon dont je le fais que je sais et que les autres ne savent pas, je peux vous dire que ça ne marche pas. Ça fabrique des résistances, ça fabrique des stratégies d'évitement, des compétitions d'opinion. Et il faut faire autrement. Il faut faire émerger ça. C'est long, mais c'est durable. Et ça permet à une dynamique de s'enclencher. Et il s'agit ici de traits de caractère que Jésus nous recommande d'intégrer dans notre programme personnel, dans notre logiciel qui va piloter nos comportements, nos réflexes, y compris dans notre façon de travailler à la justice. Jésus a hérité la terre sans résister aux méchants, sans mettre en place une stratégie de conquête qui va arracher des parcelles d'autorité, surtout pas par la force. Je me demande souvent comment c'est possible que Jésus ait quitté cette terre à l'ascension. Il voulait apporter le règne de Dieu, mais il n'a rien entrepris pour le structurer, pour le formaliser, pour le mettre en place de façon systématique. Il n'a pas bâti une stratégie, il n'a même rien écrit lui-même, il a juste laissé son exemple de vie à suivre. Et ces béatitudes, c'est une synthèse de la façon dont Jésus a vécu. Ça annonce en 8 points son programme, son plan, qui va être développé dans tout le sermon sur la montagne. Alors heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Jésus a eu faim et soif de justice. Et la justice dont il parle ici, dans le contexte de ce règne de Dieu qui avance, c'est pas seulement la justice de la piété personnelle. Elle a une part dans la pensée de Jésus, mais il a aussi faim et soif de justice sociale. On a parlé de la priorité pour les pauvres, etc. La soif que les injustices auxquelles nous sommes confrontés parce qu'on ne sait pas fonctionner ensemble comme il faut sur cette terre, parce qu'on n'est pas solidaire des pauvres, que ça prenne fin. Et c'est l'aspiration à un changement concret dans notre société. De quoi avons-nous soif ? En creux, Jésus nous dit que ce qui rassasie vraiment, ce qui satisfait vraiment, parce que c'est notre vocation, en devenant avec l'aide de Dieu une nouvelle création, c'est la recherche passionnée de la justice. Heureux ceux qui sont compatissants, car ils obtiendront compassion. Jésus a été compatissant envers les faibles, mais aussi envers les durs. Il a utilisé la force de la compassion pour transformer. Il a refusé de juger la femme adultère. Il a collaboré avec Pierre, qui l'a renié 3 fois. Il s'est occupé personnellement de la conversion de l'apôtre Paul. C'était un dur, hein, l'apôtre Paul. Jésus cherche d'abord la restauration, pas le jugement ou la vengeance. Donne le droit à l'erreur. C'est une façon de gérer le droit à l'erreur aussi quand on gère une équipe, dans ce qu'on appelle le management bienveillant, lorsqu'on gère pourquoi pas une église. Management bienveillant, c'est prendre un peu de hauteur et le but, c'est de faire progresser celui qui ne sait pas encore. Qu'est-ce qu'on emploie comme stratégie pour ça? Heureux ceux qui sont compatissants. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le cœur pur, c'est l'inverse du cœur partagé. C'est avoir des motivations pures. Ne pas agir par intérêt personnel ou par calcul, y compris quand c'est pour la justice. C'est nettoyer l'intérieur et pas seulement l'extérieur. Heureux les artisans de paix, car ils seront affichés, appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui travaillent au changement de manière non violente, ça nous dit. Qui travaillent à briser le cycle d'enchaînement, d'escalade automatique de la violence, que ce soit verbale ou physique. Vous connaissez peut-être le cycle de l'agression. On réagit à une agression verbale par une agression verbale, physique par une agression physique. Vous connaissez ça, hein ? Les cours de récréation et puis même plus largement, c'est plein de ça. Jésus va nous dire de faire pour les autres ce qu'on veut qu'ils fassent pour nous. Jésus nous invite à briser ce cycle-là, ce cycle qui est contre notre nature, ce cycle de violence. Et ceux qui travaillent à le briser seront reconnus comme des fils de Dieu. Ça nécessite d'aller plus loin que la loi du talion, œil pour œil. Ça, c'est ce que dit Jésus un peu après. C'était déjà un progrès, hein, œil pour œil, parce que bien souvent, pour un œil, on prenait plus qu'un œil. C'était dans l'Ancien Testament déjà une régulation de ce cycle d'escalade de la violence, de dire œil pour œil. Ben là, Jésus va aller plus loin. Il va appeler un truc fou qui est d'aimer nos ennemis. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Peut-être que c'est fils de Dieu parce qu'aimer ses ennemis, c'est pas naturel. Si vous jouez au foot comme moi, vous réaliserez aussi peut-être votre besoin de changer encore. Travailler à la paix, ça peut aussi être des choses concrètes. Je pense encore à Fabé Traoré, avec qui on a échangé. Et ça fait longtemps que Jean-Paul Pelsi dit, mais Fabé, il faut que vous fassiez du fourrage pour les bœufs. Alors Jean-Paul lui voit que s'ils ont du fourrage qu'ils peuvent mettre stocké pendant l'hiver, ils vont pouvoir élever plus de bœufs et puis avoir plus de revenus. Puis Fabé, il est motivé, il dit, mais moi ce qui m'intéresse, c'est que les bœufs qui vaquent à leurs occupations comme ça, ils vont dans le champ du voisin et ils créent des dégâts. Et ça crée des conflits dans la communauté. Donc ce projet de fourrage, ça permet aussi de réduire les tensions dans notre communauté parce qu'on va, s'occuper de nos bœufs de façon structurée. Être des artisans de paix, ça peut être concret. Vous n'avez pas encore trop faim, c'est bon? On est presque au bout, c'est la dernière feuille qui est déjà entamée. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Bon, ben, c'est dit quoi? Est-ce qu'il y a une gradation dans la béatitude? En tout cas, cette béatitude est une conséquence des autres. Et là aussi, Jésus, en mettant en place son programme, sa façon d'être, en faisant différemment, a engendré l'envie de le réduire au silence, qui a abouti étape par étape sa mort. Alors Jésus n'a pas dit « heureux ceux qui sont persécutés », c'est pas méritoire d'être persécuté. Surtout si on est persécuté pour de mauvaises raisons. Ça peut arriver aussi. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice. Alors Dave Andrews souligne que ces huit béatitudes sont un portrait de Jésus, un portrait de l'homme ou la femme dont Dieu a rêvé. C'est ce qu'on a essayé de ressortir un peu au fur et à mesure. Jésus était solidaire des pauvres. Il a été ému. Il a pleuré. Il a lutté contre les injustices sans utiliser la violence. Il avait compassion même des méchants. Il a souffert à cause de la justice. Et chaque béatitude est en contradiction directe avec la manière de vivre, d'agir, qui nous sont à tous naturels. Moi le premier. Et Jésus, il cite ces versets juste avant le suivant, le 13, où il dit « C'est vous qui êtes le sel de la terre ». Le sel de la terre, c'est ça. Jésus nous demande d'adopter ces mêmes traits de caractère. Parce que c'est ça qui change. Nous-mêmes, mais qui peut aussi changer les choses autour de nous. J'ai essayé de le décrire avec quelques exemples. Jésus nous dit par là que la révolution du royaume ne va pas venir en citant les Écritures, mais en imitant le modèle qu'il nous a laissé, en travaillant en nous et dans nos situations de tous les jours. Chaque béatitude nous propulse dans une quête d'un aspect concret du règne de Dieu, qu'on peut essayer de mettre en application dans sa vie. N'essayez pas tout à la fois, on va se décourager. Mais c'est notre programme pour s'entraîner sur terre. C'est notre vocation. C'est tout simplement ça, notre mission. Vous savez, Jésus a employé des paraboles en particulier pour parler du royaume de Dieu. C'est ce qu'on appelle les paraboles du royaume. Et je vous en donne une qui montre que Dieu ne s'attend pas à ce qu'on mette ça en œuvre sur un claquement de doigts. Voici encore à toi le règne des cieux est semblable, un marchand qui cherchait de belles perles. Ayant trouvé une perle de grand prix, il allait vendre tout ce qu'il avait pour l'acheter. Dans ces deux versets, à votre avis, c'est quoi le royaume de Dieu? C'est quoi le règne de Dieu dans ce verset? C'est la perle. Votre idée?
Le fait de la vendre.
Et ça, c'est toutes les idées que j'avais aussi. Et puis il y a Fifi, Philippe Figuère, qui un jour a prêché là-dessus au comité de mission. Je vous relis une fois. Voici encore à quoi le règne des cieux est semblable. À un marchand qui cherchait de belles perles. Le royaume de Dieu, c'est de chercher. Et on a ce programme qui est paradoxal. Et notre l'invitation, c'est que on se met à le chercher. Ça prend. Ça rejoint cette notion de disciple. Disciple dans l'évangile de Matthieu. Pensez souvent à la fin du chapitre 28, Faites de toutes les nations disciples. C'est une synthèse de c'est quoi un disciple dans l'évangile de Matthieu. Et un disciple, c'est pas quelqu'un qui pense comme Jésus. Jésus ne cherche pas des personnes qui pensent comme lui. Jésus va chercher des personnes qui agissent comme lui. Le sel de la terre, des graines de changement. Et quand on devient un disciple, lorsqu'on entre dans cette vie de foi, on entre dans cette communauté de personnes qui cherchent à ce que le royaume de Dieu s'approche de plus en plus. Vous savez, quand je me suis fait baptiser, je n'ai pas réalisé tout ça. Je le dis parce qu'on a parlé avec Alizé hier soir. On démarre tous dans la foi avec le salut. Et nous sommes sauvés. Merci Seigneur. Mais c'est quelque chose qui nous met en route. On rentre dans une communauté où on est appelé à changer. Parce que c'est ça. C'est comme ça que Dieu a prévu de changer le monde qui est autour de nous. Je m'arrête là. Parce que j'ai déjà été long. Mais la révolution de Jésus, ça ne consiste pas à changer les autres. Ça consiste à nous changer nous-mêmes et à inviter d'autres à cheminer avec nous sur la voie de la transformation. Dave Andrews termine son commentaire par cette prière. Seigneur, donne-moi la sérénité d'accepter les personnes que je ne peux pas changer, le courage de changer celles que je peux changer et la sagesse de comprendre qu'il s'agit de moi. Je vous invite à prier.